Témoignage pour George Fox par son épouse, d'autres parents, d'autres amis, et Thomas Elwood, page 120 Fox, concernant son bref récit de quelques-uns de ses voyages, de ses souffrances et des épreuves endurées pour la cause de la plus haut Dieu tout-puissant doté mon cher mari de ce monde mauvais et pénible, dont il n'était pas, ayant été choisi hors de lui. Il avait sa vie et son être dans une autre région. George Fox disait qu'il vivait au paradis. Aujourd'hui, il décrirait le paradis comme une autre dimension et son témoignage était contre le monde, que ses œuvres étaient mauvaises et c'est pourquoi le monde le haïssait. Je dois maintenant rendre mon récit et mon témoignage au sujet de mon cher mari, que le Seigneur a reçu dans son royaume et sa gloire bienheureux, et il m'est donné par le Seigneur, et je le vois, de faire relation et de laisser trace des actions du Seigneur envers nous depuis le commencement. Il fut l'instrument dans la main du Seigneur en ce temps-ci, dont il se servit pour l'envoyer dans le monde prêcher l'Évangile éternel, qui avait été caché à beaucoup d'âges et de générations. Le Seigneur le lui révéla et le fit ouvrir ce chemin nouveau et vivant qui conduit à la vie éternelle, alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence. Et lorsqu'il le déclara dans son pays de Leicestershire, puis dans le Derbyshire, le Nottinghamshire et le Warwickshire, cela souleva une grande fureur et une opposition parmi les prêtres et le peuple contre lui, car sa déclaration allait contre les prêtres mercenaires et leurs pratiques. Pourtant, il y eut toujours quelques personnes, en divers endroits, qui le reconnurent, mais bien peu restèrent fermes avec lui quand vint la persécution. Lui et un autre furent mis en prison à Derby, mais l'autre renonça à sa foi et laissa George seul en prison, où il demeura presque une année entière. Il fut relâché et poursuivit son témoignage au dehors, mais fut de nouveau emprisonné à Nottingham. Il y resta quelque temps, puis fut encore relâché. Puis il poursuivit son chemin vers le Yorkshire, parcourant ce grand comté en tous sens, et plusieurs le reçurent, tels William Dewsbury, Richard Farnsworth, Thomas Aldham, et d'autres, qui tous devinrent des ministres fidèles de l'Esprit pour le Seigneur. Il demeura dans ce pays, et voyagea à travers Holderness et les Wolds, et beaucoup de gens furent convaincus, et plusieurs furent conduits en prison à York pour leur témoignage rendu à la vérité, hommes et femmes. Nous avions entendu dire qu'un tel groupe de personnes s'était levé, et nous avions fait de sérieuses recherches à leur sujet. Après quelque temps, il voyagea plus au nord, vers les vallées du Yorkshire, comme Wednesday et les Sedbure, et parmi les collines, les vallées et les montagnes, il avança et convainquit beaucoup de la vérité éternelle. En l'année 1652, il plut au Seigneur de l'attirer vers nous. Ainsi il vint de Sedbure dans le Westmoreland, à la chapelle de Firbank, où John Blakeling vint avec lui, puis à Preston, Grarrig, Candale, Underbarrow, Poobank, Cartmel et Stavelay, et enfin à Swarthmore, ma maison, où il apporta les heureuses nouvelles de l'Évangile éternel, pour lesquelles moi-même et plusieurs centaines dans ces contrées avons sujet de louer le Seigneur. Mon mari d'alors, Thomas Fell, n'était pas à la maison à ce moment-là, mais était parti en tournée au pays de Galles, étant l'un des juges des assises, et comme notre maison était un lieu ouvert pour accueillir des ministres et des personnes religieuses, l'un des amis de George Fox l'y conduisit, où il passa la nuit. Et le lendemain, qui était un jour de lecture ou de jeûne, il alla à l'église d'Ulverston, une secte puritaine indépendante calviniste. Les indépendants choisissaient leur propre pasteur, mais il n'entra qu'une fois les gens installés à l'intérieur. Mes enfants et moi y étions depuis longtemps avant son arrivée, et pendant qu'ils chantaient, avant le sermon, il entra. Quand ils eurent fini de chanter, il se leva sur un siège et demanda qu'on lui donne la liberté de parler, et celui qui était en chair dit qu'il le pouvait. Et les premières paroles qu'il prononça furent celles-ci. « Celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est au dehors, mais celui-là est juif qu'il est au dedans, et la circoncision est celle du cœur. » Et il poursuivit en disant que Christ était la lumière du monde, et qu'il éclairait tout homme venant dans le monde, et que par cette lumière il pouvait être rassemblé à Dieu. Je me levai dans mon banc et m'étonnai de sa doctrine, car je n'avais jamais rien entendu de semblable. Puis il continua, ouvrit les Écritures et dit, « Les Écritures étaient les paroles des prophètes et de Christ et des apôtres, et ce qu'ils disaient, ils l'avaient goûté et possédé, et ils avaient reçu ces paroles du Seigneur. » Il ajouta, « Alors qu'avaient-ils à faire des Écritures, s'ils n'étaient pas venus à posséder l'Esprit qui leur avait donné les paroles ?» Vous direz, « Christ a dit ceci, et les apôtres disent cela, mais vous, que pouvez-vous dire ? Êtes-vous enfants de lumière, et avez-vous marché dans la lumière, et ce que vous dites vient-il intérieurement de Dieu ?» Cela m'ouvrit tellement que cela me transperça le cœur, et alors je vis clairement que nous étions tous dans l'erreur. Je me rassis donc dans mon banc et pleurai amèrement, et je criai en mon esprit au Seigneur, « Nous sommes tous des voleurs, nous sommes tous des voleurs, nous avons pris les Écritures en parole, et nous n'en savons rien en nous-mêmes. » Cela me satisfit à tel point que je ne saurais rappeler ce qu'il dit ensuite, mais il continua à déclarer contre les faux prophètes, les prêtres et les trompeurs du peuple. John Sorry, juge de paix et homme de religion, dit au marguillier de l'emmener. Le marguillier posa plusieurs fois les mains sur lui, puis les retira de nouveau, le laissant tranquille. Après quelque temps, il termina et revint encore à notre maison cette nuit-là. Il parla à la maisonnée parmi les serviteurs, et ils furent tous généralement convaincus, en particulier William Caton, Thomas Soltraus, Mary Eskew, Anne Clayton et plusieurs autres serviteurs. Je fus plongé dans une grande tristesse, et comme mon mari était absent, je ne savais que faire. Je voyais que ce que George disait était la vérité, et je ne pouvais le nier. Pour moi, c'était comme l'a dit l'apôtre, j'ai reçu la vérité dans l'amour qu'elle inspire, et elle me fut révélée si clairement que je n'eus jamais la moindre réserve dans mon cœur contre elle. Au contraire, je désirais que le Seigneur me garde dans mon entendement, et je ne désirais pas de plus grande part. Il alla à Dalton, Aldingham, Dendrum et aux chapelles et églises de Ramsid, et en plusieurs lieux ça et là, et le peuple le suivait puissamment. Un grand nombre de personnes furent convaincues et virent que ce qu'il disait était la vérité, mais les prêtres étaient tous en fureur. Et environ deux semaines après, James Naylor et Richard Farnsworth partirent aussi et cherchèrent où ils se trouvaient, jusqu'à ce qu'ils reviennent tous à Swarthmore. Ils restèrent quelque temps avec moi à la maison et me firent beaucoup de bien, car j'étais sous une grande lourdeur et sous jugement. Mais la puissance du Seigneur vint sur moi environ deux semaines après l'arrivée de George. Environ trois semaines après, mon mari rentra à la maison. Beaucoup dans la région étaient dans une grande rage, et nombre de capitaines et de gentilshommes du pays allèrent à la rencontre de mon mari d'alors, tandis qu'il rentrait. Ils l'informèrent qu'un grand malheur était survenu dans sa famille et que les hommes impliqués étaient des sorciers qui nous avaient détournés de notre religion et que, s'ils ne les chassaient pas, toute la région serait ruinée. Mais aucune arme forgée contre le Seigneur ne prospérera, comme on peut le voir par ce qui suivit. Ainsi mon mari rentra, fort offensé, et on aurait pu croire, vu l'état dans lequel je me trouvais, que j'allais soit déplaire à mon mari, soit offenser Dieu. Il l'avait tellement prévenu contre nous qu'il était très troublé par nous tous dans la maison et la famille. James Naylor et Richard Farnsworth étaient alors chez nous, et je souhaitais qu'ils viennent lui parler. Et ils lui parlèrent, avec beaucoup de modération et de sagesse. D'abord il leur en voulut, jusqu'à ce qu'ils lui disent qu'il venait en amour et en bonne volonté dans sa maison. Après les avoir écoutés quelque temps, il fut plus satisfait. Ils offrirent et se préparèrent à partir, mais je leur demandai de rester et de ne pas s'en aller encore, car George Fox viendra ce soir. Et je voulais que mon mari les entende tous et se satisfasse davantage à leur sujet, parce qu'à son retour, les gens du pays l'avaient tellement prévenu contre eux, les disant dangereuses et autres choses effrayantes. Il fut assez modéré et tranquille. Quand le dîner fut prêt, il s'y mit, et j'entrai et m'assis près de lui. Pendant que j'étais assise avec lui, la puissance du Seigneur me saisit, et il en fut frappé d'étonnement. Mon mari ne savait que penser, mais il demeura tranquille et silencieux. Les enfants étaient tous tranquilles et immobiles, et étaient devenus très sérieux, à tel point qu'ils étaient incapables de jouer leur musique qu'ils apprenaient. Toutes ces choses rendirent mon mari très calme et immobile. Cette nuit-là, George Fox revint. Après le souper, mon mari était assis dans le salon, et je lui demandai si George Fox pouvait entrer. Et il dit oui. Alors George entra sans aucune cérémonie, entra dans la pièce et se mit aussitôt à parler, et la famille ainsi que James Naylor et Richard Farnsworth entrèrent tous. Il parla avec une excellence telle que je ne l'avais jamais entendue auparavant, et il exposa les pratiques de Christ et des apôtres telles qu'ils les avaient vécues en leur temps. Et il dévoila la nuit d'apostasie survenue depuis les jours des apôtres, et mit en lumière les prêtres et leurs pratiques dans l'apostasie. Il parla si bien que je pensais que, si toute l'Angleterre avait été là, elle n'aurait pu nier la vérité de ces choses. Et ainsi mon mari en vint à voir clairement la vérité de ce qu'il disait, et il fut très silencieux cette nuit-là, ne dit plus rien mais alla se coucher. Le lendemain matin, Lampy, le prêtre d'Ulverston, vint et emmena mon mari au jardin, lui parlant longuement, mais mon mari avait tant vu la veille au soir que le prêtre fit peu d'impression sur lui. Quand Lampy, le prêtre, entra dans la maison, George lui parla vivement et lui demanda, quand Dieu lui avait parlé et l'avait appelé à aller prêcher au peuple. Après quelque temps, le prêtre s'en alla. C'était le sixième jour de la semaine, vers le cinquième mois, 1652. Chez nous, plusieurs amis discutaient du fait que plusieurs personnes étaient convaincues de la vérité dans la région, et nous ne pouvions décider où tenir une réunion pour tous. Mon mari était aussi présent, il entendit notre discussion et dit de lui-même, « Vous pouvez vous réunir ici si vous le souhaitez. » Ce fut la première réunion que nous eûmes, qu'il offrit de lui-même. On donna ce jour-là et le lendemain avis de la réunion aux amis, et une très grande et bonne réunion eut lieu le premier jour, qui fut la première réunion tenue à Swarthmore. Les réunions s'y poursuivirent de 1652 à 1690. Ce jour-là, mon mari alla à l'église, mais personne ne l'accompagna, sinon son clerc et son palefrenier. Le prêtre et le peuple étaient tous troublés et craintifs, mais loué soit le Seigneur, ils n'accomplirent jamais leur dessein contre nous jusqu'à ce jour. Après quelques semaines, George alla de nouveau à l'église d'Ulverston, et le juge Sorry, avec d'autres, lança contre lui la populace grossière. Ils le battirent au point qu'il tomba en s'évanouissant, il eut le corps, la tête et les bras cruellement meurtris et noircis. Mon mari n'était pas à la maison alors, mais lorsqu'il rentra, il fut mécontent de ce qu'ils avaient fait à George, et il parla au juge Sorry, disant que c'était contre la loi de provoquer des émeutes. Après cela, George fut cruellement battu et lapidé à Walney jusqu'à tomber, et à Dalton aussi, il fut battu et maltraité, de sorte qu'il reçut des traitements très durs en divers lieux de ses contrées. Lorsqu'une réunion fut établie ici, il retourna dans le Westmoreland et y établit des réunions. Beaucoup furent convaincus de la vérité de ces témoignages, et une abondance de vaillants ministres y surgirent, tels John Cam, John Odlan, Francis O'Gill, Edward Burrough, Milhalred et John Blakeling et divers autres. Il passa aussi les sables vers Lancaster, et Yelan et Kelley, où Robert Withers, Richard Robeson et John Lawson furent convaincus, avec beaucoup d'autres. Vers le temps où ils se trouvaient dans ces régions, de nombreux prêtres et gens de religion se soulevèrent, l'accusèrent faussement de blasphème et cherchèrent à le faire mourir, amenant des gens à jurer au tribunal de Lancaster qu'il avait proféré des blasphèmes. Mais mon mari d'alors et le colonel West, ayant eu quelques aperçus et quelques connaissances de la vérité, résistèrent aux deux juges persécuteurs, John Sorry et Thompson, le délivrèrent et l'innocentèrent, car en effet il était innocent. Après les séances du tribunal, il y eut une grande réunion dans la ville de Lancaster. Beaucoup d'habitants y assistèrent, et beaucoup furent convaincus de la vérité du message de George. Ainsi George voyagea autour de Lancaster, Yelan, Westmoreland et de certaines parties du Yorkshire, et dans nos régions pendant plus d'un an. Durant ce temps, plus de 24 ministres surgirent, prêts à partir avec leur témoignage de la vérité éternelle vers le monde. Et peu après, Francis O'Gill et John Cam allèrent parler à Oliver Cromwell. Et en l'année 1653, les mouvements de George l'emmenèrent vers le Cumberland, par Milholm, Lamplay, Ambleton et Brigham, Partsey et Cockernouse, ou à Ambleton auprès d'Ambleton, il eut une dispute avec quelques prêtres nommés Locke et Benson. Mais il disputa surtout avec John Wilkinson, prédicateur à Ambleton et Brigham, qui fut ensuite convaincu, reconnut la vérité, et fut un ministre utile en Angleterre, en Irlande et en Écosse. Puis il alla à Coldbeck et en plusieurs endroits, jusqu'à ce qu'il vienne à Carlisle, et entra dans leur église. Là ils le battirent, l'outragèrent et le conduisirent devant les magistrats, qui l'interrogèrent et le mirent en prison dans la geôle commune parmi les voleurs. Aux assises se trouvait Anthony Pearson, qui avait été juge de paix et avait été convaincu à Appleby, alors qu'il siégeait au tribunal, par James Naylor et Francis O'Gill, qui étaient alors prisonniers et avaient été amenés devant lui. Ainsi Anthony Pearson parla au juge de Carlisle, les connaissant et ayant épousé sa femme hors du Cumberland, et après quelque temps ils le relâchèrent. Ensuite George alla dans plusieurs autres parties du Cumberland, et beaucoup furent convaincus et reconnurent la vérité. Il rassembla et établit des réunions parmi eux, et ça et là en divers endroits du Nord. En l'année 1654, il descendit vers le sud dans son propre pays du Leicestershire, visitant les amis. Puis le colonel à cœur l'envoya à Oliver Cromwell, et après avoir été gardé prisonnier quelque temps, il fut conduit devant Oliver et fut relâché. Il resta à Londres pour visiter les amis et les réunions de là. Il voyagea ensuite vers l'ouest jusqu'à Bristol et visita les amis. Quand il alla en Cornouailles, on l'emprisonna, lui et Edward Pio, à Launceston. Il y eut une dure et longue détention. À sa libération, il parcourut de nombreuses parties du comté de Cornouailles, y établissant des réunions. Puis il traversa beaucoup de comtés, visitant les amis et établissant des réunions tout au long de sa route. Ensuite, il remonta vers le nord à Swarthmore et au Cumberland. George Robert Withers, James Lancaster, John Grave et d'autres voyagèrent en Écosse en l'année 1657. Il parcourut de nombreux lieux dans cette nation, dont Douglas, Heads, Hamilton et Glasgow. À Édimbourg, ils l'arrêtèrent et le traînèrent devant le général Monk et le Conseil, où ils l'interrogèrent et demandèrent quelle était son affaire en Écosse. George répondit qu'il était venu visiter la semence de Dieu. Après l'avoir menacé et lui avoir ordonné de quitter l'Écosse, ils le laissèrent partir. De là il alla à Linlithgow, Stirling, Johnston et en bien d'autres lieux, visitant le peuple, plusieurs étant convaincus. Après être demeuré peu de temps et avoir établi quelques réunions, il revint dans le Northumberland, dans l'évêché de Durham, visitant les amis et établissant des réunions en chemin. Puis il revint encore à Swarthmore et demeura quelque temps parmi les amis avant de redescendre de nouveau vers le sud. En 1658, mon mari, le juge Fell, mourut. En 1660, il remonta du sud vers le nord et tint une grande réunion générale aux environs de Balby dans le Yorkshire, puis il continua son voyage, visitant les amis en de nombreux endroits, jusqu'à revenir à Swarthmore. Depuis que le roi Charles avait été rétabli, les juges de paix envoyèrent des mandats et l'arrêtèrent à Swarthmore. Leur mandat l'accusait de détourner les sujets du roi, ce qui menaçait d'ensanglanter la nation, et ils l'envoyèrent prisonnier au château de Lancaster. Comme le juge Fell avait été un influent propriétaire terrien, et que George avait été arrêté dans ma maison, je fus poussé par le Seigneur à aller trouver le roi à Whitehall. J'emportai avec moi une déclaration et des informations sur les principes des amis. Après de grands retards et de grandes difficultés, je rencontrai le roi. Quand enfin j'obtins audience, je lui dis que si George était coupable des faits reprochés, moi aussi j'étais coupable, puisqu'il avait été pris dans ma maison. Et je lui remis le papier exposant nos principes et le priai de mettre George en liberté, car le roi avait auparavant promis que personne ne souffrirait, sous son règne, pour des consciences scrupuleuses. Je lui dis que nous avions des consciences délicates et ne désirions rien que la liberté de nos consciences. Avec beaucoup de difficultés, après qu'il eût été gardé prisonnier près de 6 mois à Lancaster, nous obtînmes un habeas corpus et le fîmes transférer à la King's Bench, où il fut relâché. J'aurais volontiers voulu rentrer auprès de ma grande famille, mais j'étais lié en mon esprit et je n'eus pas la liberté de revenir pendant une année entière. Le roi me promit plusieurs fois que les amis auraient leur liberté, mais alors les hommes de la monarchie se soulevèrent, ce qui entraîna une grande et générale incarcération des amis dans tout le pays. Jusqu'à ce que nous eussions obtenu une proclamation générale accordant la liberté à tous nos amis, je n'eus pas la liberté ni la permission intérieure de rentrer, ce qui arriva enfin. En 1663, il remonta encore vers le nord, et à Swarthmore. Là, ils envoyèrent des mandats, l'arrêtèrent de nouveau, l'emmenèrent à Holcroft devant les juges, ils lui proposèrent le serment d'allégeance qu'il ne pouvait prêter, et l'envoyèrent prisonnier au château de Lancaster. Environ un mois après, les juges ordonnèrent aussi qu'on me fasse sortir de ma maison pour comparaître devant eux, où ils me proposèrent le serment, puis ils me condamnèrent à être prisonnière à Lancaster. Et aux assises suivantes, ils nous proposèrent de nouveau à tous deux le serment d'allégeance et de suprématie, et me frappèrent de prémunir, mais il s'était trompé de date et avait commis d'autres erreurs dans son acte d'accusation, de sorte qu'il fut annulé, mais ils lui proposèrent encore le serment et le gardèrent prisonnier 1 an et demi au château de Lancaster. Ensuite, ils l'envoyèrent au château de Scarborough dans le Yorkshire, où ils le gardèrent prisonnier, sous la surveillance étroite des soldats, pendant presque 1 an et demi. Ils le gardèrent si étroitement qu'un ami pouvait à peine lui parler, pourtant, après cela, il plut au Seigneur qu'il fût relâché. Mais moi je demeurai en prison et fus prisonnière 4 ans alors. Un ordre fut obtenu du conseil du roi, par lequel je fus enfin mise en liberté. À ce moment-là, je descendis en Cornouailles avec ma fille et mon fils Lowe, et revins par Londres pour la réunion annuelle, et là je rencontrai de nouveau George. Il me dit que le temps s'approchait de notre mariage, mais qu'il pourrait d'abord aller en Irlande. Et un peu avant ce temps, il avait été prisonnier quelque temps dans son pays à Leicester, puis relâché. Ainsi il partit pour l'Irlande, et moi j'allai dans le Kent et le Sussex, puis je revins encore à Londres. Ensuite je partis vers l'ouest, vers Bristol en 1669, et j'y demeurai jusqu'à son retour d'Irlande, qui eut lieu 11 ans après le décès de mon premier mari. En Irlande, il rendit un grand service au Seigneur et à sa vérité éternelle parmi les amis et beaucoup de gens, échappant à de nombreux dangers et à des tentatives répétées de l'arrêter, des guets à peine ayant été préparés pour lui en bien des endroits. Et de retour, à Bristol, il déclara son intention de se marier, et notre mariage y fut célébré en conséquence. Dans les 10 jours qui suivirent notre mariage, je rentrai chez moi, et mon mari demeura çà et là dans les comtés parmi les amis, les visitant. Note, être frappé de prémunir signifiait être condamné pour avoir soutenu une autorité autre que le roi, telle qu'une autorité étrangère. Le refus des Quakers de prêter le serment de loyauté était considéré comme une preuve de leur soutien à une autorité étrangère au roi et permettait au tribunal de saisir tous leurs biens, biens immobiliers, récoltes, bétail, comptes bancaires, etc. Le roi Charles y, par miséricorde, donna le domaine saisi de Swarthmore aux enfants de Margaret, lui assurant de pouvoir finir ses jours dans sa maison, il la gracia aussi après qu'elle eut passé plus de 10 ans dans de dures prisons. Peu après mon arrivée, un autre ordre vint du conseil pour me faire jeter de nouveau en prison, et le shérif du Lancashire envoya son huissier et me tira de ma propre maison, me conduisant prisonnière au château de Lancaster, en usant de l'ancienne prémunir. Je fus emprisonnée pendant 1 année entière, et la plupart de ce temps j'étais malade et faible. Mon mari aussi était faible et maladif alors. Après quelque temps, il se rétablit et chercha à obtenir ma libération. On obtint enfin une décharge sous le grand sceau du roi, et je fus mise en liberté. Je partis pour voyager de nouveau à Londres, car mon mari se préparait à partir pour l'Amérique. Il fut en Amérique pendant 2 années entières avant de revenir en Angleterre. Arrivé à Bristol, il alla à Londres et projeta de voyager avec moi vers le centre du pays. Mais lorsque nous fûmes arrivés dans certaines parties du Worcestershire, les autorités en furent informées, et par son mandat, le juge Parker envoya George et mon fils Leo à la prison de Worcester. Là, les juges leur proposèrent le serment et le frappèrent de prémunir, mais relâchèrent mon fils Leo. Toutefois, il demeura avec George la plupart du temps où celui-ci fut prisonnier. Et après quelque temps, il tomba malade d'une longue maladie languissante, et souvent il fut très mal. On m'écrivit donc de Londres que, si je souhaitais le voir vivant, je devais aller vers lui, ce que je fis en conséquence. Et après être resté 17 semaines avec lui à Worcester, sans qu'aucune libération ne paraisse probable, je montai à Londres et écrivis au roi un récit de sa longue détention, qu'il avait été pris tandis qu'il voyageait sur la route avec sa famille, et qu'il était malade et faible, et que s'il le gardait longtemps, il n'était guère probable qu'il vive. J'allai moi-même à Whitehall avec ce document et rencontrai le roi pour le lui remettre. Le roi dit que je devais aller voir le chancelier, qu'il ne pouvait rien y faire. J'écrivis donc aussi au lord chancelier et me rendis chez lui pour lui remettre mon papier, lui disant que le roi lui avait laissé l'affaire entièrement. Je lui dis que, s'il n'avait pas pitié et ne le faisait pas sortir de cette prison, je craignais qu'il n'y finisse ses jours. Et le lord chancelier Finch était un homme très compatissant, et il parla au juge, qui délivra aussitôt un habeas corpus. Et lorsque nous l'eûmes, nous l'envoyâmes à Worcester. D'abord, ils refusèrent de le relâcher, disant qu'il avait été frappé de prémunir, et qu'il n'était pas permis de le libérer sur la base d'un habeas corpus. Nous fûmes donc forcés d'aller voir le juge North et le procureur général, auprès de qui nous obtînmes un autre ordre qui fut envoyé, et avec beaucoup de difficultés, et grâce aux grands efforts et aux ailes de William Mead et d'autres amis, nous obtînmes son transfert à Londres, où il comparut à Westminster Hall, à la King's Bench, devant le juge Hall, homme très honnête et compatissant. Il savait qu'ils avaient emprisonné George sans autre motif que l'envie. Ainsi, les chefs d'accusation furent lus, et notre conseil plaida qu'il avait été arrêté alors qu'il voyageait sur son chemin de retour avec sa famille, on dit peu d'autres choses, et il fut acquitté. Ce fut la dernière prison où il fut, étant libéré par le tribunal de la King's Bench. Lorsqu'il fut en liberté, il se rétablit, et alors je voulus que nous rentrions ensemble, ce que nous fîmes. C'était la première fois qu'il venait à Swarthmoor depuis notre mariage, et il resta avec nous environ 2 ans, puis partit de nouveau pour Londres pour la réunion annuelle. Après quelque temps à Londres, il alla en Hollande et dans certaines parties de l'Allemagne, où il demeura longtemps, revenant à Londres pour la réunion annuelle suivante. Après être resté à Londres et dans les environs, il remonta dans le nord à Swarthmoor encore, et cette fois y demeura près de 2 ans. Il devint faible, tourmenté de douleurs et de courbatures, après tant de voyages pénibles et longs, de coups reçus et de dures détentions. Mais après quelque temps, il se rendit à cheval à York, puis passa par le Nottinghamshire et plusieurs comtés, visitant les amis, jusqu'à arriver à Londres pour la réunion annuelle. Il demeura à Londres, et aux alentours jusqu'à ce qu'il eût achevé sa course et posé la tête en paix. Et bien que le Seigneur lui eût procuré une demeure extérieure, pourtant il ne voulait pas y rester, parce qu'elle était si éloignée et si loin de Londres, où se trouvait l'essentiel de son service. Et mon souci pour Dieu et sa sainte vérité éternelle était alors dans le Nord, où Dieu m'avait placé et établi, de même que pour l'ordre et la conduite de mes enfants et de ma famille, de sorte que nous fûmes tous deux disposés à vivre séparés quelques années, à cause de Dieu et du service de sa vérité, et à nous refuser le réconfort que nous aurions pu avoir à être ensemble, pour l'amour et le service du Seigneur et de sa vérité. Et si certains en prirent occasion ou nous jugèrent durement pour cette séparation, le Seigneur les jugera, car nous étions innocents. Et pour ma part, j'étais disposé à faire de nombreux longs voyages pour être avec lui, ôtant ainsi toute occasion de mauvaises pensées au sujet de notre séparation. Bien que je vécusse à 200 milles de Londres, j'y suis pourtant allé 9 fois, pour l'œuvre du Seigneur et de sa vérité. De toutes les fois où j'ai été à Londres, cette dernière fut la plus réconfortante, car il plut au Seigneur de me donner la force et la capacité de faire ce grand voyage, à l'âge de 76 ans, pour voir mon cher mari, qui était en meilleure santé et en meilleure vigueur que les nombreuses fois où je l'avais vu auparavant. Je considère que la main particulière du Seigneur était en cela, que je devais y aller alors, car il ne vécut qu'environ un demi-an après que je l'eus quitté, ce qui me fait admirer la sagesse et la bonté de Dieu d'avoir ordonné mon voyage à ce moment-là. Et maintenant, il a achevé sa course et son témoignage, et il est entré dans son repos et sa félicité éternelle. Je mets ma confiance dans ce même Dieu puissant, afin que son saint bras et sa puissance me conduisent jusqu'au bout, quoi qu'il lui plaise encore de me donner à faire, et qu'il soit ma force et mon soutien, et celui qui relève ma tête jusqu'à la fin et dans la fin. Car je connais sa fidélité et sa bonté, et j'ai l'expérience de son amour, à lui soit la gloire et la domination puissante pour toujours. Amen. Fox, témoignage de certains parents de l'auteur. Ni les jours ni la longueur du temps passé parmi nous ne peuvent effacer la mémoire de notre cher et honoré Père George Fox, que le Seigneur a pris auprès de lui. Et bien que sa maison terrestre, ce tabernacle, soit dissous, et que la mortalité soit déposée, nous croyons néanmoins qu'il a un édifice auprès de Dieu, éternel dans les cieux, et qu'il est entré dans le repos, en récompense de ses grands travaux, de ses dures souffrances et de ses rudes épreuves, qu'il endura patient. De cette vérité, il fut fait un ministre capable, et l'un sinon le premier à la proclamer en notre temps, lui qui, sans grande érudition ni apparence de savoir au dehors, étant caché à la sagesse de ce monde, avait pourtant la langue des savants, et pouvait dire en temps opportun une parole adaptée à l'état et à la capacité du plus grand nombre, surtout de ceux qui étaient fatigués et cherchaient le repos de l'âme, étant profondément versés dans les mystères divins du royaume de Dieu. Et la parole de vie et de salut par lui atteignit de nombreuses âmes, par quoi beaucoup furent convaincus de leur grand devoir de se retirer intérieurement pour attendre Dieu, et à mesure qu'ils devenaient diligents dans l'accomplissement de ce service, ils furent aussi suscités pour prêcher ce même évangile éternel de paix et de bonne nouvelle aux autres. Ils sont comme des sceaux de son ministère, tant dans cette nation que dans d'autres, et pourront peut-être en donner un récit plus complet. Toutefois, connaissant son infatigable diligence, ne s'épargnant pas mais se dépensant dans l'œuvre et le service pour lesquels il avait été choisi et appelé par Dieu, nous ne pouvions que rendre ce bref témoignage de sa fidélité à cela, ainsi que de son tendre amour et de son soin envers nous, lui qui, comme un père tendre envers ses enfants, en quelle qualité nous étions à son égard, étant ainsi liés à lui, ne manqua jamais de nous donner son conseil saint et son avis. Non seulement cela, mais comme un père en Christ, il prit soin de toute la famille et de toute la maison de la foi, dont le Seigneur l'avait fait un surveillant éminent, et l'avait doté d'un esprit si excellent de sagesse et d'intelligence, pour proposer et orienter des aides et des avantages au bon ordre et à l'établissement des affaires et du gouvernement dans l'Église, tels qu'ils se trouvent aujourd'hui très utiles, et ont grandement déçu et empêché l'esprit faux relâché et libertin chez certains, qui à leur confusion ont cherché par séparation. Et bien que beaucoup de cette sorte aient à diverses reprises lancé contre lui leurs flèches empoisonnées publiquement par écrit et autrement en secret, il a pourtant toujours été préservé par la puissance céleste de Dieu hors de portée de leur envie, ainsi que de tous les périls et difficultés qu'il accompagnait à cause d'eux. Lui qui, comme une étoile fixe dans le firmament de la puissance de Dieu, demeura constamment et garda son intégrité jusqu'au bout, ayant une vie douce et savoureuse, et quant à sa conduite, gardant ses vêtements propres. Car il était l'un des vaillants du Seigneur, courageux pour la vérité sur la terre, ne tournant pas le dos au jour du combat, mais son arc demeurant encore dans sa force, il apporta, à travers beaucoup d'épreuves, joie et rafraîchissement au camp d'Israël, étant assisté par la puissance de cette force qui mit toujours en fuite les armées des étrangers et des ennemis. Et maintenant, ayant achevé sa course, il a été ôté d'auprès de nous dans un état glorieux d'immortalité et de félicité, et il a été rassemblé auprès du Seigneur comme une gerbe de blé en sa pleine saison, et dans cette demeure de sûreté où les méchants cessent de tourmenter et où ceux qui sont fatigués sont au repos. John Rod, Margaret Rod, William Mead, Sarah Mead, Thomas Lowe, Mary Lowe, William Ingram, Susanna Ingram, Daniel Abraham, Rachel Abraham, Abraham Maurice, Isabelle Maurice, une épître sous forme de témoignage, aux amis et frères des réunions mensuelles et trimestrielles en Angleterre, au pays de Galles et ailleurs, concernant le décès de notre fidèle frère George Fox. De notre réunion du matin du second jour, à Londres, le 26 du 11e mois 1690, chers amis, frères et sœurs en Christ Jésus, notre bienheureux Seigneur et Sauveur, vraiment bien-aimé, nous vous saluons tous sincèrement et tendrement dans son amour libre et délicat, dont il nous a gracieusement visités, et qu'il a abondamment répandu dans nos âmes, pour notre propre consolation et réconfort indicible, et envers tout son héritage et sa royale postérité. Béni soit à jamais son nom pur et puissant. Et nos âmes désirent vraiment et ardemment, et aspirent vers le Dieu de toutes nos miséricordes, afin que vous soyez tous préservés et gardés, vraiment fidèles et diligents dans son œuvre et son service, selon votre appel céleste et les dons reçus, avec sa lumière, sa grâce et sa vérité jusqu'à la fin de vos jours, étant avec amour engagés durant tout le temps qui vous est imparti à le servir et à attendre jusqu'à ce que vienne votre changement, afin que nul ne néglige le vrai bon usage de son temps et de ses talents que Dieu lui a accordés. Et que tout le troupeau et l'héritage de Christ Jésus, qu'il a acquis et acheté pour lui-même à un prix incorruptible, soit toujours préservé dans son amour et sa vie pure, afin d'y croître, d'y augmenter et d'y prospérer, et d'être ainsi gardé dans l'amour, l'unité et la paix les uns avec les autres, comme il convient à ses vrais et fidèles disciples. Voilà ce que désirent nos cœurs et nos âmes, étant souvent vraiment consolés et élargis dans le sentiment vivant et la perception de l'accroissement et de l'abondance qui se trouve parmi les amis et frères fidèles. Et chers frères et sœurs, à cette tendre salutation nous sommes conduits, dans l'amour fraternel et une véritable douceur de cœur, a ajouté à vous communiquer quelques récits du décès de notre cher et ancien frère en Christ, à savoir son vrai et fidèle serviteur et ministre, ainsi que celui de son Église George Fox que le Seigneur a jugé bon de prendre auprès de lui, comme il l'a fait récemment de plusieurs autres de ses fidèles serviteurs et ministres. Ceux-là ont fidèlement servi leur génération et ont achevé leur témoignage et leur course dans la joie et la paix. Toutefois, aux chers frères et amis, que tant de dignes en Israël et d'instruments utiles dans la main du Seigneur, aient été ces derniers temps ôtés et retirés d'auprès de nous si promptement, l'un après l'autre, apparaît comme une dispensation qui nous affecte profondément et douloureusement, nous et bien d'autres, dont les cœurs sont droits et tendres envers Dieu et les uns envers les autres dans la vérité. La considération de sa profondeur, de son poids et de son sens pèse fortement sur nos esprits, bien que leur vie et leur témoignage précieux vivent avec nous, comme étant du même corps, unis à une seule tête, à savoir Christ Jésus. En Christ, nous espérons encore que nous aurons toujours un réconfort secret et une union avec eux, que le Seigneur a retirés et pris auprès de lui, hors de leur tabernacle et demeure terrestre, dans leur demeure céleste et éternelle. Notre cher frère George Fox fut rendu capable, par la puissance du Seigneur, de prêcher pleinement et efficacement la vérité dans notre assemblée publique à Whitrothcott, près de Gracechurch Street à Londres, le 11 jour de ce présent 11e mois, 1690, après quoi il dit « Je suis heureux d'avoir été ici, maintenant je suis dégagé, je suis pleinement dégagé ». Le même jour, il fut pris d'un mal ou d'une indisposition corporelle plus forte qu'à l'ordinaire, et demeura faible de corps pendant les deux jours suivants, chez notre ami Henry Goldney, dans la même cour, tout près de la maison de réunion, dans un grand contentement et une grande paix, et en pleine possession de ses sens jusqu'au dernier moment. Durant ce temps, il mentionna divers amis et en fit appeler quelques-uns en particulier. À ceci, il exprima sa pensée quant à la diffusion, dans le monde et parmi ses nations, des livres des amis et de la vérité, son esprit étant universellement disposé, dans l'amour et la puissance du Seigneur, pour la vérité et la justice, et pour faire connaître la voie aux nations et aux peuples lointains, signifiant aussi à certains amis que tout va bien et que la semence du règne sur tout, et sur la mort elle-même, que bien qu'il fût. Et le 13e de ce mois, entre la 9e et la 10e heure de la nuit, il quitta paisiblement cette vie dans la paix, deux jours après que le Seigneur l'eut rendu capable de publier et de prêcher la vérité bénie dans l'Assemblée, comme il a été dit. Ainsi, il termina clairement et manifestement ses jours dans son fidèle témoignage, dans un amour et une unité parfait avec ses frères, et dans la paix et la bienveillance envers tous les hommes, étant âgé d'environ 66 ans, comme nous l'entendons, lorsqu'il quitta cette vie. Note la date du calendrier julien, 11e mois 1690, correspond, dans le calendrier grégorien actuellement en usage, au 1er mois 1691, Fox avait 66 ans lorsqu'il mourut, HW. Et le 16e de ce mois, jour fixé pour ses funérailles, une très grande affluence d'amis et d'autres personnes se rassembla, comme il a été dit, vers le milieu du jour, à notre maison de réunion de Whitrothcott, afin d'accompagner son corps jusqu'à notre lieu d'inhumation près de Bunhillfield, pour y être enterré, comme dernier office d'amour et de respect que les amis lui devaient à ce titre. La réunion dura environ deux heures, avec une grande et céleste solennité, manifestement accompagnée de la puissance et de la présence bénie du Seigneur, et plusieurs témoignages vivants furent rendus, dans un vif souvenir et sentiment de ce cher ancien serviteur, de son ministère béni et de son témoignage au surgissement de ce jour d'Évangile, de sa vie innocente, de ses longs et grands voyages et de ses travaux d'amour dans l'Évangile éternel, pour détourner et rassembler des milliers, des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. Il aimait la vérité et la justice, et rendait un fidèle témoignage contre la tromperie et le mensonge, et contre le mystère d'iniquité, et souvent, ces derniers temps surtout, il avertissait les amis contre la cupidité, l'esprit terrestre, contre le fait de s'enliser dans les choses de la terre et de tomber dans un esprit fragile, et les plus jeunes, contre le relâchement et l'orgueil de la vie. A few days before he died, he had a great concern upon his mind concerning some in whom the Lord's power was working, to lead them into a ministry and testimony to his truth, who through their too much entangling themselves in the things of this world, did make themselves unready to answer the call and leadings of the power of God, endure the gift that was bestowed upon them, and did not take that regard to their service and ministry as they ought. He mentioned the apostle's exhortation to Timothy, to take heed to his ministry, and to show himself approved. He expressed his grief concerning such as preferred their own business before the Lord's business, and sought the advancing worldly concern before the concern of truth. He concluded with a tender and fatherly exhortation to all to whom God had imparted of his heavenly treasure, that they would improve it faithfully, and be diligent in the Lord's work, that the earth might be sown with the seed of the kingdom, and God's harvest might be minded be those whom he had called and enabled to labor therein, and that such would commit the care of their outward concern to the Lord, who would care for them, and give a blessing to them. However, this is not mentioned to encourage any to run hence, or without being called of God. Beaucoup sont des témoins vivants que le Seigneur l'a suscité, par sa puissance, pour proclamer aux nations son jour puissant, et qu'il fit de lui un instrument efficace en notre temps pour détourner beaucoup des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, et pour souffrir librement et supporter tous les reproches, persécutions diverses, coups, traînements, lapidations, emprisonnements et cruautés qui, au commencement, furent infligés à lui et à d'autres pendant un certain temps, pour le nom de Jésus-Christ. Il fut dans son témoignage comme une étoile fixe dans le firmament de la puissance de Dieu, où tous ceux qui sont véritablement sages et qui ramènent beaucoup à la justice brilleront comme l'éclat du firmament et comme les étoiles au siècle des siècles. Il connaissait et prêchait le mystère de Christ révélé, la vie et la substance et la puissance de la piété, au-dessus de toutes les ombres et de toutes les formes. Le Seigneur le revêtit d'une sagesse et d'une vie cachée. Il aimait la paix et travailla ardemment à l'amour universel, à l'unité, à la paix et au bon ordre dans les églises du Christ. Partout où il rencontrait le contraire, c'était pour lui une grande peine et un lourd fardeau. Il était grandement pour l'encouragement des ouvriers fidèles dans l'œuvre du Seigneur. C'était pour lui une grande offense et une grande peine que leur témoignage fût affaibli, ou leurs travaux méprisés, par préjugé chez quiconque professait la vérité. Et comme le Seigneur permit qu'il ne fût pas livré à la volonté de ses ennemis et persécuteurs, qui avaient souvent auparavant exhalé de la cruauté contre lui et conçu sa destruction. Dans son bon plaisir, si justement et si paisiblement, le Seigneur l'emporta en son temps, lorsque son témoignage était si heureusement achevé et son œuvre accomplie. Tout cela est remarquable et digne d'une observation sérieuse et attentive, comme procédant d'une providence spéciale et divine, et de la sagesse de Dieu, à qui nous attribuons toute la gloire, et non à l'homme ni aux créatures. Bien que nous devions reconnaître et admettre la bonne réputation et l'estime légitime que des anciens fidèles, des ministres et des serviteurs de Dieu et du Christ ont obtenue par la foi, à la louange de cette puissance bénie qui les a soutenus en tout âge, en leur temps, beaucoup, même ces derniers temps, sont enlevés au mal à venir et reposent dans le Seigneur, hors d'atteinte de toute envie et de toute persécution, là où les méchants ne peuvent plus les troubler. Et nous devons supporter patiemment notre séparation d'avec eux et notre perte et notre chagrin à cet égard, au regard de leur gain ineffable. Pourtant, comment éviter d'être profondément touché, dans la tristesse de l'esprit et le cœur brisé, par le sentiment et la considération de telles pertes et révolutions, que nous avons lieu de croire annonciatrices de calamités pour le monde méchant, bien qu'elles soient un bien pour les justes. La mort du simple et droit Jacob, à savoir Israël, qui était comme un prince de Dieu, n'affecta-t-elle pas si profondément ses propres enfants et sa parenté qu'ils firent sur lui une grande et douloureuse lamentation, et même les Égyptiens aussi, qui le pleurèrent 70 jours. Et la mort de Moïse n'affecta-t-elle pas si profondément les enfants d'Israël qu'ils pleurèrent et le regrettèrent dans la plaine de Moab pendant 30 jours, et la mort d'Étienne, ce fidèle martyr de Jésus, n'affecta-t-elle pas si profondément certains hommes craignant Dieu qu'ils firent sur lui une grande lamentation? Et l'apôtre Paul, lorsqu'il prit congé des anciens de l'église d'Éphèse et leur dit qu'ils ne verraient plus son visage. Si cela les affecta si profondément qu'ils pleurèrent tous abondamment, s'attristant surtout de ses paroles, qu'ils ne verraient plus son visage, et avec bien d'autres choses de ce genre, comment pourrions-nous ne pas être nous aussi profondément affectés de douleur et de tristesse de cœur, quoique non comme ceux qui n'ont point d'espérance, lorsque tant de nos anciens frères chers et fidèles, avec lesquels nous avons eu tant de douce communion, nous sont retirés l'un après l'autre. Nous prions Dieu d'en susciter et d'en accroître davantage de tels. Toutefois, nous devons tous nous soumettre avec contentement au bon plaisir et à la sagesse du Seigneur notre Dieu en toutes ces choses, lui qui enlève, et nul ne peut l'en empêcher, ni personne ne peut lui dire « Que fais-tu ?» Nous avons, cependant, sujet de bénir le Seigneur de ce qu'il a récemment suscité, et suscite encore, davantage de personnes pour publier son nom sur la terre. Et nous qui demeurons encore n'avons qu'un court temps à rester après ceux qui s'en sont allés, mais nous nous en irons aussi vers eux. Que le Seigneur Dieu de vie nous garde tous fidèles dans sa sainte vérité, son amour, son unité et sa vie jusqu'à la fin. Il a encore une grande œuvre à faire paraître sur la terre, et de grandes choses à accomplir, afin de frayer la voie pour que la vérité et la justice y prennent place, afin que sa semence paraisse et soit rassemblée, et que la puissance et le royaume de notre Dieu et de son Christ soient connus et exaltés sur la terre, jusqu'à ses extrémités. Chers amis et frères, soyez fidèles jusqu'à la mort, afin d'obtenir une couronne de vie. Demeurez tous dans l'amour de Dieu en Jésus-Christ, dans l'union et la paix en lui, à qui nous vous confions tendrement, afin qu'il vous garde et vous fortifie, vous bénisse et vous préserve jusqu'au terme de vos jours. Dans l'amour cher et tendre duquel nous demeurons vos chers amis et frères, Stephen Crisp, Gilbert Latté, Joe Whitehead, Charles Marshall, Fra. Camfield Rich. Needham, James Park, James Martin, John Elson, Daniel Monroe, Peter Price, John Haywood, John Field, George Ball, John Edridge, William Robinson, Nicholas Gatt, William Bingley, Francis Tempé, John Butcher, John Vaughton, Benjamin Antrobus. Ces noms ont été ajoutés depuis, au désir des personnes suivantes: Sam, Godeke, Ambe, Rigg, William Fallowfield. Post-scriptum avant sa mort, il écrivit un petit billet, désirant que tous les amis partout, qui avaient coutume de lui écrire au sujet des souffrances et des affaires des amis dans leurs divers pays, écrivent désormais à leurs correspondants respectifs à Londres, afin que cela soit communiqué à la réunion du second jour, qui veillerait à ce qu'on y réponde. Récit de Thomas Elwood concernant cet éminent et honorable serviteur du Seigneur George Fox. Commentaire de l'éditeur du site. Thomas Elwood était le biographe officiel de George Fox. Il avait été formé par John Milton, le célèbre écrivain anglais aveugle du poème épique en 12 livres, Paradise Lost, et devait plus tard devenir un écrivain renommé à part entière. Pendant plusieurs années, Elwood vécut à Swarthmore, la demeure de George Fox, coordonnant la collecte des écrits de Fox et interrogeant Fox pour qu'il se remémore de nombreuses lettres et événements qui n'avaient pas été copiés ou auparavant consignés. Après avoir achevé le journal de George Fox, Elwood écrivit sans relâche de nombreux livres et écrits en réponse au flot incessant d'ouvrages critiquant les croyances des Quakers. L'autobiographie d'Elwood et sa poésie abondante figurent également sur ce site, disponible à la lecture. Dans son autobiographie, son témoignage de première main sur les terribles conditions des prisons anglaises de l'époque est considéré comme le meilleur qui soit disponible. Cet homme saint fut suscité par Dieu d'une manière extraordinaire, pour une œuvre extraordinaire, réveiller le monde endormi, en proclamant aux nations le jour puissant du Seigneur et en publiant de nouveau l'Évangile éternel aux habitants de la terre, après la longue et lugubre nuit d'apostasie et de ténèbres. Pour cette œuvre, le Seigneur commença à le préparer dès son enfance par de nombreuses et diverses épreuves et exercices, et l'ayant rendu apte et pourvu pour cela, il y appela très jeune, et fit de lui un instrument par l'action efficace du Saint-Esprit au travers de son ministère, pour appeler beaucoup d'autres à la même œuvre, et pour ramener des milliers des ténèbres à la lumière du Christ, et de la puissance de Satan à Dieu. Je ne le connus pas avant l'année 1660. Depuis ce temps jusqu'au temps de sa mort, je le connus bien, conversai souvent avec lui, l'observai beaucoup, l'aimai tendrement et l'honorai véritablement, et par bonne expérience, je puis dire qu'il était en effet un homme d'esprit céleste, zélé pour le nom du Seigneur, et qu'il préférait l'honneur de Dieu à toute chose. Il était vaillant pour la vérité, hardi à l'affirmer, patient à souffrir pour elle, infatigable à y travailler, ferme dans son témoignage pour elle, inébranlable comme un roc. Il était profond en connaissance divine, clair à dévoiler les mystères célestes, simple et puissant dans la prédication, ferve dans la prière. Il était richement doté de sagesse céleste, prompt à discerner, sûr dans le jugement, capable et prêt à donner, discret à garder le conseil, ami de la justice, encourageant la vertu, la justice, la tempérance, la douceur, la pureté, la chasteté, la modestie, l'humilité, la charité et le renoncement à soi en toutes choses, tant par la parole que par l'exemple. Il avait un visage agréable, une allure virile, un maintien grave, était courtois en conversation, pondéré dans la communication, instructif dans le discours, exempt d'affectation dans la parole ou la conduite. Sévère réprimandeur des pécheurs durs et obstinés, doux et bienveillant avertisseur de ceux qui étaient sensibles et conscients de leurs manquements, peu enclin à s'offenser des torts personnels, prompt à pardonner les injures, mais ardemment zélé là où l'honneur de Dieu, la prospérité de la vérité, la paix de l'Église étaient en jeu. Il était très tendre, compatissant et plein de pitié envers tous ceux qui souffraient d'une quelconque affliction, rempli d'amour fraternel, rempli de sollicitude paternelle. Car en vérité, le soin des Églises du Christ était quotidiennement sur lui, et il recherchait avec application leur prospérité et leur paix. Il était aimé de Dieu, aimé du peuple de Dieu, et ce qui n'était pas la moindre part de son honneur, le but commun de l'envie de tous les apostats, dont il recherchait pourtant ardemment le bien. Il vécut assez longtemps pour voir le désir de son âme, la diffusion de ce principe béni de lumière divine à travers nombre de nations européennes, et dans plus d'une île et province d'Amérique, et le rassemblement de milliers dans son établissement, honneur que le Seigneur lui donna d'en être, dans ce monde des derniers jours, le premier efficace propagateur. Et après avoir combattu le bon combat, achevé sa course et gardé la foi, son âme juste, délivrée du tabernacle terrestre dans lequel il avait mené une vie exemplaire de sainteté, fut transporté dans ses demeures célestes où le Christ notre Seigneur est allé préparer une place pour les siens, afin d'y posséder cette glorieuse couronne de justice qui est réservée et sera donnée par le Seigneur, le juste juge, à tous ceux qui aiment son apparition. Les âges à venir, parmi des peuples encore à naître, l'appelleront bienheureux, et béniront le Seigneur de l'avoir suscité, et nous aussi serons bénis, si nous marchons comme nous l'avions pour exemple, car voici le témoignage qui vit dans mon cœur à son sujet, il vécut et mourut le serviteur du Seigneur. Thomas Elwood, la fin de tout dans le journal Backtop.